tous les vendredis 19h-20h.
On se tutoie
avec Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Bonjour, bonsoir, c'est Jean-Luc Reichmann. Alors oui, une nouvelle aventure commence, une histoire de dingue. Chaque vendredi, entre 19h et 20h, le programme, la base, on se tutoie. Ensuite, laissez-vous guider. Allez, on est parti ensemble.
Salut Jean-Luc.
Salut, bonjour.
Salut Jean-Luc.
Salut, bonsoir.
Salut Jean-Luc.
Dans mes fantasmes les plus fous pour partir en week-end, j'avais envie de prendre le large et de me taper un solo d'air guitare de dingo. Le jour s'est levé sur les riffs et les refrains, mais pour un joli voyage tout en musique, il me fallait fantasmer une jolie petite histoire. Comment envoyer du gros son pour laisser s'envoler mon imaginaire et faire décoller ma virtuelle Cendrillon? Comment arriver à décrocher les étoiles et avec qui avoir envie de partager et de chanter à m'en exploser les cordes vocales? Bref, comment arriver à refiler le frisson aux auditeurs pour qu'après une heure, ils se disent « Sur Nostalgie, ça, c'est vraiment toi. » Et cette émission, c'était de la bombe humaine. Pour certains, la musique, c'est un métier. Pour d'autres, c'est une passion. Mais pour celui que je visais, c'était bien plus que ça. La musique, pour lui, c'est une façon de mieux respirer, de mieux s'inspirer, de mieux s'exprimer. Dans le film de sa vie, la musique, c'est bien plus que The Voice. C'est bien plus que New York avec toi. La musique, c'est insupportable. C'est une déclaration d'amour à la vie. Un pied de nez à la loose et à la poussière bleue. Ces idées de voyage, ces idées-là, il fallait que je les partage. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit « Prends ton téléphone. » Et j'ai décroché. J'ai appelé Louis Bertignac. Il a accepté mon invitation d'un autre monde. Et je lui ai dit « Et si on se racontait une jolie petite histoire ?» Bonjour, bonsoir Louis.
Bonjour.
Alors, on se tutoie ou pas?
On se tutoie.
On se tutoie. Ouais. Je suis très très heureux, très très fier parce que demain c'est quand même un grand saut puisqu'on est au Trianon demain soir. Et on est en plein dans l'actualité. Le programme de demain, est-ce qu'on l'a bien dans la tête? Est-ce que le déroulé, le conducteur est bon?
Ça devrait aller parce que ça fait à peu près 2 ans que je joue ces morceaux-là. Donc, sur scène. Ouais.
Donc tu es bien préparé physiquement, mentalement. Il y a une préparation avec madame avant de monter sur scène. Comment
pas
ça
vraiment,
se passe?
Non, il vaut mieux éviter.
Ouais.
La préparation, non, il n'y a pas grand-chose. Je me fais quelques vocalises.
D'accord.
J'accorde la guitare.
Ouais.
Je fais quelques gammes. Enfin, je joue un peu de solo.
Ouais.
Et ça va, quoi. C'est comme, d'ailleurs, en parlant de madame, c'est un peu comme... franchement, quand je monte sur scène, c'est un peu... c'est la même chose que quand je fais l'amour.
D'accord, donc ça s'appelle les préliminaires avant.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Donc, il n'y a pas besoin d'une énorme préparation avant ça.
Donc, j'ai un problème, en fait, Louis, c'est que j'ai cherché des gens qui disaient du mal, j'ai trouvé personne.
Ah bon?
Mais personne, c'est-à-dire...
Je peux te donner 2-3 numéros.
Ouais, je veux bien. En revanche, pour ceux qui ne connaissent pas obligatoirement, qui ne connaissent pas bien Louis Bertignac, ou ceux qui ne se rappellent pas obligatoirement, Louis, 1976, ça commence avec ça. Irradié. Alors?
Ouais, Higelin.
Higelin.
Même 75, hein.
Ouais, 75, il y a eu des débuts, des préliminaires, comme avec madame, d'ailleurs. et puis, 75-76, c'est également ça. Avec Jacques Higelin.
Ouais.
On est derrière la guitare?
Bien sûr, ouais.
Ouais.
Étonnant, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, j'étais avec des potes, des cinglés comme moi.
Mmh.
On avait 20 ans, on voulait faire ça comme job. On ne savait pas quoi, comment faire tout ça. On aimait le rock, on aimait les Stones, les Beatles, etc.
La rencontre avec Jacques Higelin, ça s'est passé comment?
Oh, j'ai été dans une soirée
au
château d'Hérouville. Il y avait une fiesta, donc je prends ma petite bagnole, j'y vais. 4L, évidemment.
Mmh.
Et là, je croise une fille dans une salle qui s'appelait Valérie Lagrange, qui était vraiment belle, c'était une vraie femme, enfin.
Ouais, enfin.
Ben, je rencontrais pas souvent, je rencontrais surtout des mecs. Hein.
Bon. D'accord.
Et là, une femme, et jolie, qui jouait de la guitare sèche. Je lui dis, ben, tu veux, file-moi ta guitare, on va faire un truc ensemble. Et donc, on joue une chanson, et je sais pas, elle craque. Et donc, on a fait un truc ensemble, c'est que on s'est embrassés.
Ah,
Oui, c'était étonnant mm-hmm. de ma part, qui était un grand timide, mais je sais pas, elle a dû faire le boulot.
Ouais.
Et on s'est retrouvés le lendemain dans la chambre de ma grand-mère, qui n'était pas là, à faire l'amour, ce qui était assez...
Dans la chambre de la grand-mère.
Dans la chambre de ma grand-mère, chez mes parents.
Dans le lit de ta grand-mère.
Oui, exactement, dans le lit de ta grand-mère qui était inoccupée à l'époque.
Ta grand-mère.
Non,
le lit. Non, c'était juste pour ça.
Non.
Il n'y a pas de gênance de faire un câlin dans le lit de sa grand-mère.
Ben, c'était tout nouveau, c'était intéressant.
C'était intéressant.
Oui, parce que c'était une femme mûre et belle, c'était assez nouveau pour moi.
D'accord.
Et donc, voilà, on s'entendait bien, on jouait de la guitare ensemble, de la guitare sèche. Et puis, peut-être deux jours après, les premiers ébats, elle me dit, j'ai un copain qui répète parce qu'il doit faire un truc, une première partie à l'Olympia.
Ouais.
Alors, si tu veux, on va le voir. Je dis, avec plaisir. Elle me dit, c'est un grand mec, je crois que tu l'avais vu, il jouait dans la fête au château. Et je ne vois pas qui tu veux dire, mais elle m'emmène là-bas. Mm-hmm. Ils étaient en train de répéter sur la scène, donc elle me dit, on s'assoit là, on ira les voir plus tard, on ne dérange pas. Et puis juste une minute après, il s'engueule avec un des mecs sur la scène, ouais, pendant qu'il répétait. Et j'entends, si c'est comme ça, je me casse. Et Jean, le fameux Jean, lui dit, casse-toi. Ouais. Et donc, le mec se casse.
Ouais.
Et c'était le guitariste, un des deux guitaristes.
Ouais.
Et bon, évidemment, il y a un grand silence sur scène.
Bah oui.
Il ne se passait rien. Et elle me dit, viens, on va en profiter pour aller dire bonjour. Donc, j'y vais avec elle. Elle dit bonjour à Jacques, elle dit bonjour à d'autres gens que je ne connaissais pas, évidemment. Et je vais voir le guitariste tout de suite, et je lui dis, c'est une Les Paul que t'as?
Ouais.
Il me dit, oui, c'est une vraie Les Paul, je connaissais pas, tu vois, c'était une super marque.
Bien sûr.
Gibson Les Paul. Mm-hmm. Et il me dit, ouais, t'es guitariste? Je lui dis, ouais, tu veux l'essayer? Oui, avec plaisir. Donc il me fout la guitare dans la main, évidemment, je joue et je frime, je joue, je savais que frimer à l'époque.
Bien sûr.
Donc je joue. Et Higelin, 30 secondes après, il vient me voir, il me dit, tu veux pas jouer avec nous?
Ouais.
Et je lui dis, avec plaisir. J'ai juste à aller chercher ma guitare et mon ampli chez mes parents qui habitent à 500 mètres.
Ouais.
Donc je prends la 4L, je vais chercher guitare et ampli, et j'étais soudain le guitariste d'Higelin.
Ce que je trouve génial, c'est après avoir ouvert les portes de la grange, tu montes sur scène.
C'est beau.
C'est magnifique.
C'est bon, mais il n'y avait pas d'animaux dans l'histoire.
et l'histoire commence comme ça avec Higelin. Et la suite, elle est quand même merveilleuse, parce que un an, même pas après, quasiment, Monsieur Louis Bertugnac, ça commence avec ça. Mais on continue à parler dans l'Hygiaphone avec ça. Parler dans l'Hygiaphone. La voix est claire. Et puis ça sonne quand même, ça sonne pas mal, parce qu'il y a Téléphone, il y a Flipper écrit par toi aussi sur le même album, on est d'accord.
Ouais,
ça,
ouais.
C'est quand même des souvenirs qui font monter les poils sur l'avant-bras quand même, non?
Bien sûr. Puis ça sonne pas si mal quand on écoute.
Mais ça sonne enfin, très bien.
On était tout jeunes. C'est-à-dire qu'après, à un moment, j'en ai eu marre de... Je voulais faire mon vrai groupe de rock. Donc je rappelle des copains que je connaissais bien, Jean-Pierre, Richard, mm-hmm. Corinne... Et je leur dis, on essaye de faire un groupe. Donc on fait ça. Jean-Louis avait quelques morceaux en réserve, j'avais quelques morceaux en réserve, on met tout ça ensemble. Et on fait ce groupe-là. On se trouve un premier concert, au premier concert, il y a des gens qui nous proposent un deuxième concert, et de fil en aiguille, on joue beaucoup, on finit par jouer beaucoup.
Ouais.
Et le public, les gens commençaient à parler de nous, même dans les radios, et c'est monté très vite comme ça, là, ça fait rapidement boule de neige.
Est-ce que tu penses que c'est ce côté rébellion, parce que l'année d'après, il y a ça, et là c'est quand même assez grave. Là on est dans la rébellion totale.
Oui, mais...
C'est très vindicatif quand même.
Ouais, mais on s'était pas politisé du tout, on voulait juste faire du rock, quoi.
Ouais.
On voulait faire comme les Stones ou tous ces groupes-là, Led Zepp, les Who. On pensait pas tellement se rebeller contre quoi que ce soit. On se rebellait contre le fait qu'il n'y avait pas assez de rock en France.
Et après, c'est le coup de la bombe, parce que sur le même album, La Bang & Olufsen, c'est ce qui fait exploser la carrière de Téléphone. On est d'accord.
Ouais, ouais.
Tu as un détonateur juste à côté du cœur. Là, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous pétez les plombs ou pas?
Non. Non, non. On a commencé, ça a marché. Ça, mm-hmm. Et on a continué, ça a marché de plus en plus. Mm-hmm. On n'avait qu'une angoisse, c'est que ça s'arrête. Que ça arrête de plaire aux gens.
C'est la fusion Aubertignac qui fait la magie de l'histoire?
Bon, les deux autres aussi, ils étaient dans le coup.
Et ils étaient dans le coup depuis un bon petit moment, avec Corinne et avec Richard, bien évidemment. Et puis on continue le petit parcours, pour ceux qui ne connaissent pas bien le Louis Bertignac. On est en plein cœur de la nuit. Il y a quand même quelque chose...
Ouais, mais ça, c'est les textes de Jean-Louis.
Faute de Jean-Louis, c'est pas toi, tu y es pas du tout.
Moi, je voulais faire du rock avant tout. D'accord. Je voulais faire du rock, et du rock qui sonne bien, et qui excite les gens sur la scène.
Alors là, le rock, il y va fort, quand même.
Oui, ouais, c'est ça. Et Jean-Louis, il avait des textes un peu comme ça, un peu rebelles. C'est vrai qu'il était plus là-dedans que moi. Moi, je voulais surtout faire du rock.
D'accord, moi je suis ado, et en 82, à ce moment-là, tout le monde peut s'identifier à ça. Rien ne t'a volé, j'aime encore le sang. Mais tout le monde s'identifie à ça.
Ouais.
Vas-y, monte la musique, parce que là, les auditeurs...
Ça marche toujours.
Mais c'est une histoire de fou. Ouais. Nous, c'était les booms dans les garages, mais rien d'autre que toi. Et tout le monde s'associe à ça.
Ouais.
Comment tu t'imagines que ça peut traverser, parce que les auditeurs font évidemment le calcul de 82 à 2025. On est comme des fous là-dessus. Comment tu peux imaginer que ça peut traverser les années, ça?
C'est un mystère. Ouais, c'est un mystère, je ne cherche pas à comprendre.
D'accord. Et puis, il y a la jolie petite histoire, évidemment, celle qui est écrite par toi, d'ailleurs, celle-ci. Jolie petite histoire. Une jolie petite histoire qui s'écrit avec Cendrillon, et puis après on rêve d'un autre monde, on passe en 1984, et puis on a tous envie, et pour à l'époque c'était pas évident, de traverser l'Atlantique, évidemment on part à New York. Un jour j'irai à New York avec toi. Là, c'est le fantasme de n'importe qui, on est d'accord? Ça vient d'où, l'histoire?
En plus, on y a été... on y a été avec Jean-Louis avant de faire Téléphone.
Ouais.
On est parti en voyage aux États-Unis, c'était juste après le bac.
Ouais.
Nos parents nous ont payé le voyage.
Mm-hmm.
Et on s'est retrouvés entre quatre potes à aller aux États-Unis. Et je me souviens de scènes... où on parlait de ce genre de choses avec Jean-Louis, c'est le cœur de la ville qui bat.
Ouais.
Parce qu'on voit que quand on est sur les hauteurs de New York, c'est pas très haut, mais il y a des hauteurs quand même. Tu vois la ville et tu vois comme un cœur rouge qui bat.
D'accord. Est-ce que c'est de là d'où vient l'autre monde? Parce qu'effectivement, on rêve tous à un moment d'un autre monde. Parce que là, on est dans la même période de New York avec toi.
À peu près, oui. Bon, ça n'a pas forcément été composé au même moment, mais à quelques mois près, oui.
Mm-hmm.
Un autre monde, c'est une histoire que je n'ai pas tellement compris. Moi, j'avais écrit un truc qui s'appelait Nouveau Monde, qui ressemblait un peu à ça.
Ouais.
Et Jean-Louis a pris un peu, il a cherché dans tout ça.
Il a pioché, oui.
Il a pioché, il se ramène avec, en studio, il se ramène avec, voilà, j'ai écrit ça.
Ouais.
Et il propose un autre monde. Je dis, mais ça ressemble un peu à une chanson de Lennon, ça.
Ouais.
I was dreaming of the past. Et il me dit, ouais, mais c'est pas grave, ça... Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'adore la chanter, j'adore la faire chanter aux gens.
Mm-hmm.
J'ai pas forcément tout compris au morceau.
C'est génial. Donc demain soir, tu vas la faire chanter au Trianon?
Oui, c'est certain. Oui, oui.
Parce que...
D'ailleurs, c'est prévu, j'aurai des surprises à proposer là-dessus, mais il y a des moments où je comprends pas ce qu'il veut dire. Mais ça a été souvent le cas dans Téléphone. Hein.
C'est extraordinaire.
J'ai pas toujours compris ce qu'il voulait dire.
Ah ouais,
mais je suis pas sûr qu'il ait compris tous les mots, lui non plus.
Tu sais pas ce que tu chantes, mais quand même, tu as les paroles.
Exactement. Mais tu sais, j'ai toujours appris... j'ai commencé à apprendre en chantant des Rolling Stones, en chantant des Beatles, mais phonétique.
Ouais.
C'est que souvent, je comprenais pas du tout ce que les mecs racontaient, mais je savais la chanter.
Et je trouve ça assez extraordinaire. Donc, oui, je parle beaucoup du Trianon, mais il y a le Casino Barrière de Lille le 11 octobre. Là, on sera un peu plus tard dans l'année. Nice le 4 novembre, hein, pour les auditeurs qui ne seront pas demain au Trianon. Il y a le Casino Barrière de Deauville le 23 novembre. Donc, il y a quand même beaucoup de dates à l'Agora. Tu vas même voir les Bretons à Cherbourg en fin d'année également. Ça continue, et alors ça continue. C'est grandiose, c'est une histoire de fou. Là, à un moment donné, je me demande qui t'appelle pour participer à It's Only Mystery. It's only mystery and
I like it. Ah ouais.
Non mais t'as le regard qui s'éclaire et qui s'allume quand tu entends ça.
J'aime beaucoup ce morceau.
Ouais.
En fait, c'est Corinne qui m'appelle.
Corinne Marieno.
Ouais, qui me dit, écoute, je suis en train de bosser sur un film, la musique d'un film avec Eric Serra.
Ouais.
Et le générique, on n'arrive pas, on s'en sort pas.
Ouais.
Alors je lui dis, bah, fais voir qu'est-ce que vous avez déjà dessus. Mm-hmm. Et ils avaient à peu près écrit ce truc-là, mm-hmm. mais ça sonnait folk, c'était bizarre. Mm-hmm. Et donc j'ai réfléchi, et assez rapidement j'ai fait la maquette, c'est-à-dire au bout d'une demi-heure c'était à peu près prêt. Et je leur dis, voilà, je pense que c'est bien, que ça ressemble à ça. Et ils me disent, bah, c'est génial, ok, on prend ça. Mm-hmm. Donc voilà, on prend ma maquette, on l'a finie en studio. Il y a ce chanteur que Sims, je ne sais plus comment c'est ouais. son prénom, mm-hmm. qui arrive.
C'est les frères Sims, non ? C'est Arthur Sims, non ?
Ouais, je crois que c'est lui.
Ah, ça doit être ça, de
oui,
mémoire.
Décédé depuis.
Ouais.
Et donc, le soir, c'était plié.
C'est extraordinaire.
Le morceau était là, et évidemment, il a fait le single du film. Mm-hmm. C'était quoi, déjà ?
Le It's Only Mystery, non ? C'est pas ça ?
Non, le film, c'était quoi ? Je me rappelle.
Bah, c'est Subway.
Subway, ouais. Bah,
évidemment.
Ça. Non, mais je mélange les films de Besson.
Non, mais il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est le film de ta vie. On va continuer à dérouler le film de ta vie.
Oui,
et à ce propos, justement, c'est le film de la vie de Louis Bertignac qui est, évidemment, sur les platines. J'aime bien dire le mot platine de nostalgie.
Je n'ai pas oublié l'essentiel de bien rentrer à la maison où quelqu'un m'attend, moi le petit con.
Alors, aucun regret sur le film de la vie. Quand on entend tout ça, on voit la vie qui passe. Ce qui est assez intéressant, quand j'ai cherché un peu pour gratter, c'est l'instant présent, en fait, le plus important, on est d'accord ?
Bah, c'est ma nature.
Ouais.
Il y a des gens qui vivent un peu en arrière du présent, d'autres en avant. Moi, je suis dedans.
D'accord, on est en plein dans le présent. On va revenir un petit peu en arrière pour les auditeurs, pour se remémorer, parce que moi, j'ai des papilles gustatives en émoi quand j'écoute « Le jour s'est levé ».
Le jour s'est levé.
Sur une étrange idée.
Sur une étrange idée.
T'as le sourire quand t'entends ça, hein ?
Ouais, je l'aime beaucoup, ça me rappelle plein de trucs, évidemment. Enfin, je l'aime beaucoup, je préfère les rocks.
Ouais.
Mais ça me rappelle, évidemment, des belles choses.
Des très très belles choses. On continue. Alors là, il y a une parenthèse qui se ferme, et puis une autre qui s'ouvre. 87, Bertignac et les visiteurs. Ah là, tu fronces les sourcils, pourquoi ?
Eh ben parce que je la trouve belle. Je l'aime celle-là, je l'aime toujours. Hein. Je finis mes concerts avec.
Ouais.
Je trouve que j'ai pas été avec le dos de la cuillère pour la suite de Téléphone. C'était bien.
Ouais.
J'ai pas été avec le dos de la main morte. Je suis rentré dans l'art direct.
Ouais.
Avec un beau tube comme ce truc.
Ouais.
J'ai eu de la chance.
Ah mais ouais, c'est pas de la chance, c'est du travail, c'est de l'envie, c'est de la passion, comme je disais.
Forcément.
Cette envie de s'exprimer en permanence aussi, non ?
Forcément, mais parfois tu t'écris des trucs et puis ils se perdent assez rapidement.
Et ça reste ?
Dans un album, ouais, mais celle-là, elle reste.
Et il n'y a pas que ça qui reste, parce que après je continue, il y a, voilà, une petite passerelle. Il y a elle et Louis avec Vanessa Paradis, à un moment donné, qui fait des chœurs sur,
ouais, sur à peu près tous les morceaux.
Oubliez-moi. Écoutez ça. Alors, c'est un ovni pour nous, Vanessa Paradis,
ouais,
sur tous les morceaux, qui fait les chœurs.
Oui, en fait, on était potes.
Mm-hmm.
Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, je suis à New York. Et je lui dis, bah, ça tombe bien, je suis à New York aussi, je suis en train d'enregistrer mon album. Ah, génial, faut qu'on se voit.
D'accord.
Et donc, on passe l'après-midi à faire des cons dans le parc, Central Park.
Ouais.
Et le soir, je lui dis, écoute, si tu veux, tu viens au studio, j'aimerais bien avoir ta voix sur une chanson ou deux. Et elle a été géniale. Elle a, évidemment, elle avait le talent qu'on lui soupçonne, c'est-à-dire que les morceaux, tu lui fais écouter une fois, elle sait quoi faire.
Ouais.
Et donc, elle a joué, a chanté à peu près sur tous les morceaux, les refrains, les passages, même des « ou », elle me faisait... on peut pas... J'ai jamais vu quelqu'un qui travaille aussi vite et aussi bien.
Ça, c'est merveilleux. Alors, les femmes de ta vie, donc, cette parenthèse new-yorkaise dans Central Park avec les petits écureuils et Vanessa Paradis, on referme une parenthèse et on en ouvre une autre. Et quelle parenthèse, il y a quelqu'un qui t'a dit ?
Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit...
Là, ce que je te trouve extraordinaire, c'est que j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché. Dis-moi si je me trompe, hein. Carla Bruni me dit quelque part, c'est une espèce de ressemblance musicale avec No Woman, No Cry.
Oui, mais c'est pas la seule, hein. Si tu prends les accords, c'est aussi ceux de Cendrillon, ceux de beaucoup, beaucoup de morceaux que j'ai toujours aimés.
D'accord. Et c'est vraiment un coup de cœur, évidemment, Carla Bruni à cette époque-là.
C'était un coup de cœur longtemps avant.
D'accord.
En fait, je l'ai presque détourné quand elle était mineure.
D'accord.
Bon,
donc,
on a convenu de dire qu'elle avait 18 ans.
Donc, tu as fait une Valérie Lagrange.
Elle était beaucoup plus jeune que moi,
d'accord,
celle-là.
J'ai bien compris. On continue et on déroule. Et puis, alors là, dans les influences, et puis voilà, on est un petit peu de la même génération, toi et moi. Ce que je trouve extraordinaire, c'est Rêver d'elle, hommage à Leonard Cohen. Pour moi, Leonard Cohen, c'est, ouais, c'est quelque chose de dingue. Rêver d'elle pour les auditeurs de Nostalgie, c'est ça.
Il faut que je cesse de rêver d'elle, comme elle m'avait pris sous son voile.
Leonard Cohen, c'est fou quand même, non ?
Ah oui, j'adore ce mec.
Ouais. Un parcours fantastique, parce que pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, Leonard Cohen, c'est Suzanne Oma. Suzanne, c'est So Long Marianne, c'est Alléluia.
Ah, putain.
Ouais, non, pas putain, pas, non, la, non, okay, pas à l'antenne, non, pas le droit de dire
pardon,
putain, c'est
pardon,
pas possible.
Pas putain.
Pas putain, mais quand même, Alléluia, repris mais mondialement par, ouais, par tout le monde.
Quelle merveille ce morceau, ouais.
Ouais. Quand je te dis Leonard Cohen, ça te fait voyager ?
Évidemment, Suzanne, j'ai découvert quand j'avais genre 16 ans.
Ouais.
Et depuis, cette voix, ce mec, voilà, je suis amoureux.
Ça ne m'étonne pas, Suzanne, ou ma Suzanne. Repris. C'était Grim Wright qui avait aussi fait de belles reprises de Leonard Cohen, non ?
Ouais, certainement.
Tu te rappelles de ça ?
Pas terrible, je ne me souviens pas.
D'accord, ok. Bon, je ferme la parenthèse, je te remercie infiniment.
Désolé.
Merci, paix à son âme, au revoir plus tard. Et puis alors, là évidemment, on continue, on ne va pas parler de Grizzly avec les paroles de Boris Bergman quand
ouais,
même.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ça aussi, c'était un ovni, Grizzly.
Oui, c'était spécial. C'était étonnant comme ça s'est présenté. Je rencontre un réalisateur au cinéma. Et donc, je lui dis, et je l'avais déjà croisé. Et je lui dis, j'aimerais bien que tu viennes écouter mes dernières maquettes. Alors, il vient à la maison. Il me dit, ouais, mais enfin, toi, ça fait des années que j'attends un album de riffs. Tu vois ce que je veux dire? Des riffs de guitare.
Ouais.
Et je lui dis, ouais, d'accord, je vais essayer. Donc, il aimait pas mes chansons, mais il m'aimait bien.
Ouais.
Il espérait que j'allais faire
c'est
un album de riffs. Donc, je pars en tournée. J'ai une tournée au Brésil. Et j'ai mon téléphone, j'avais un petit 4 pistes sur le téléphone.
D'accord, déjà.
Enregistré, ouais.
Ouais.
Et des écouteurs.
Mm-hmm.
Et la tournée, ça a duré un mois, mais j'avais que 4 concerts. Donc j'ai beaucoup traîné à rien faire, je me suis bien ennuyé.
Ouais.
Mais n'empêche que je sois dans le bus ou sur la plage, dès que j'avais une idée de riff, je l'enregistrais, donc avec la voix. Alors je pouvais faire. Down, 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 down. Dun, 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 dun. Alors je fais tourner ça sur le téléphone.
Ouais.
Ensuite je rajoute une mélodie de voix. Dun, 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 dun. Pendant le dun, dun, dun. Et puis, au bout du mois du Brésil, ben, j'avais tout un album prêt dans mon téléphone,
ouais,
avec des riffs, joués à la voix, si on peut dire.
Ouais, joués à la voix, c'est bien, voilà, c'est joli.
Donc, j'arrive à la maison,
mm-hmm,
je transforme les voix en guitare,
uh-huh,
je rechante la mélodie de voix,
mm-hmm,
en yaourt,
mm-hmm,
je rajoute des batteries, des fausses batteries, etc. Et je revais voir le producteur en question,
mm-hmm,
le réalisateur. Il me dit, voilà, ça c'est bien. Là, je te propose, tu connais Boris Bergman? Je connaissais deux noms, mais
bah, il écrit
pour Bachung, etc. Et ben, on va l'appeler et on va voir s'il veut bien écrire des textes là-dessus. Ben, il a dit ok, il était content et il a écrit tous les textes de l'album.
Ça c'est quand même assez magnifique. Et puis on continue et on termine ce petit parcours avec les insus qui sont pas aussi insupportables que ça. Les insus, l'histoire, elle arrive comment? On avait envie de revenir ensemble. C'était quoi?
Pas spécialement. En fait, notre manager de l'époque de téléphone, qui était resté un copain à nous, évidemment,
mm-hmm,
nous annonce qu'il a un cancer du foie et que ça va pas terrible et que bon, ben moi je lui dis écoute, viens à la maison quelques jours. Il était solo à l'époque, il avait pas de femme. Je lui dis viens à la maison, on va s'occuper de toi.
Mmh.
Et à la maison, il me dit on m'a proposé un nouveau foie, mais j'ai peur parce que il y a 30% de chances que je meure pendant l'opération. Alors je réfléchis, je lui dis ouais, je sais pas, mais si tu la fais pas, tu meurs. Il me dit ouais, d'ici un an. Donc je lui dis bah il faut le faire, il faut tenter le truc.
Mm-hmm.
Et une semaine après, il me dit tu sais, je suis chez Jean-Louis,
ouais,
qui m'a invité quelques jours.
Ouais.
Et lui aussi, il est partant pour que je le fasse. Il me conseille de le faire. Et dès qu'un foie sera disponible et en douce, il me dit, tu sais, il t'adore, c'est son seul pote, etc.
C'est extraordinaire.
Et donc, ok, tout va bien, je savais pas qu'il m'adorait à ce point. Et donc,
vous communiquiez plus à l'époque?
Très peu, je sais pas, on était chacun
dans
sa vie.
Donc il fait une déclaration d'amour, c'est l'histoire de « il était un foie », quoi.
Exactement.
Ouais.
Très fort.
Et
donc, il se fait opérer,
mm-hmm,
ça marche, il meurt pas, et c'est son anniversaire.
Mm-hmm.
Quelques mois plus tard, et il me dit, bah, tu sais, tu peux venir, on fête mon anniversaire chez Jean-Louis, est-ce que tu veux venir?
Et ça faisait combien de temps que tu n'avais pas vu Jean-Louis? Aubert, hein, bien sûr.
Quelques années.
C'est fantastique.
On s'était croisés, tu vois, parfois j'ai été jouer quand lors de ses concerts,
bien
j'ai
sûr.
Été faire deux morceaux. Lui,
des petites apparitions.
Voilà, quoi, comme ouais. Ça, mais rien de plus. Et donc, on se retrouve chez Jean-Louis. Ah, il y a Richard, il y a Jean-Louis.
Richard Colinka. Ouais.
Et évidemment, il y avait du matériel dans une salle. Donc, on joue.
Matériel musical, je précise.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
pas des marteaux.
Non, mais bien sûr.
Donc, on se retrouve à jouer, évidemment. Et François, le manager, qui était enfin guéri,
mm-hmm,
me dit « Putain, les mecs, ça fait 30 ans que j'attendais d'entendre ce son-là encore.
Mm-hmm.
Ça n'a pas changé, j'adore.
Mm-hmm. »
Et puis, je leur dis « Écoutez, j'ai un super studio à la maison, ramenez-vous.
Mm-hmm. »
Et donc, ils viennent, une semaine après, on joue, même truc. François, comme un fou, et on se dit tous les trois, ben, peut-être... pour fêter sa rémission, on n'a qu'à lui offrir un concert.
Extraordinaire.
En public. Donc, ouais. on appelle un vieux pote qui organise ça. Je ne sais plus, c'était une petite salle dans Paris.
Uh-huh.
Et on fait le concert. Évidemment, on avait essayé de pas ébruiter. On voulait... on n'allait pas marquer téléphone, etc. D'autant plus.
Oui, c'est pas un coup marketing, c'est rien du tout. C'est
non,
un truc de pote pour de vrai.
Pour le plaisir.
Ouais, c'est ça, pour le plaisir.
Et donc, évidemment, Jean-Louis, qui était très fort pour trouver les noms, mais là il n'a pas fait très fort, mais bon, nous a proposé, il nous dit on n'a qu'à s'appeler les insupportables.
Ouais.
Et on lui dit ouais, d'accord, on se présente sous ce nom et on va faire ce concert. Les gens ne sauront pas que c'est nous. Richard avait un peu vendu la mèche parce qu'il avait peur que ça soit trop vide la salle et du coup c'était l'émeute.
Évidemment.
Il y avait même des chaînes de télé qui étaient au courant de l'horreur.
Le truc discret.
Voilà.
C'est entre nous, on fait un truc entre soi.
Voilà, quoi. Merci
ouais.
Richard.
Ouais.
Et donc, après ce concert, François nous dit, le manager nous dit, on en fait un autre. Allez, ok, une petite salle à Lyon, ils seront pas que c'est nous. Mm-hmm. Une petite salle à Lille, à chaque fois les mecs savaient que c'était nous. Des émeutes trois fois, et bon, le fameux François nous dit, écoutez, vous voulez pas faire une tournée? Et comme on s'était bien entendu pendant ces trois concerts, on lui a dit ok. Et on a fait une tournée sous le nom Les Insus, qui était plus court que Insupportable.
Mm-hmm.
Moi, j'ai toujours appelé ça Les Insus, parce que c'est plus mignon.
C'est, oui, c'est plus élégant, surtout.
Et puis c'est un peu plus sexy.
Bah oui. Let's donc... talk about sex, baby. Ouais. Donc Les Insus, et ça se passe bien, et il y a la tournée derrière.
Ouais.
Et Les Insus, comme tu les appelles, hein, je peux me permettre.
Ouais, ouais, ben, tu peux, il n'y a pas
je
de honte.
Je te cite, hein. Hein, bien
y a
sûr.
Pas de honte.
Voilà, tout en délicatesse, c'est ça. La jolie petite histoire sur Nostalgie continue, bien évidemment. La petite virgule, il la faut quand même. Elle est maintenant, mais on revient avec le grand Louis Bertignac qui sera demain soir au Trianon. Ne l'oublions pas. Je crois que c'est hyper blindé. J'en parle, mais c'est juste que c'est...
Peut-être qu'ils vont mettre 2-3 places en vente.
Voilà, peut-être. Qui sait? Casino Barrière, Lille le 11 octobre. Allez à Nice le 4 novembre. À Deauville le 23 novembre. Allez à Cherbourg le 22 novembre. Nous, on va aller faire pipi et on revient.